c'est samedi, nous sommes le 11 avril, le journal. Bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, sauf ton resto, achetez maintenant des repas pour le jour d'après. Les initiatives se multiplient pour sauver les tables françaises qui souffrent terriblement en période de confinement. Un confinement qu'il n'est pas question de desserrer, trop d'inquiétudes encore notamment sur l'épidémie dans les EHPAD, y compris dans les régions moins touchées, nous le verrons. Pour sortir plus vite de la crise, le Grand Est engage le dépistage massif. Explication. Iran, comment éviter l'effondrement? Les autorités veulent une reprise de l'économie. Enfin, la leçon d'évasion d'un champion du triathlon. Il est confiné, mais vous verrez, ça se passera bien.
Les invités de la matinale. Patricia Martin, à 7h50, qui sera votre invité?
Brice Teinturier, qui est directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos et qui nous dira comment les Français appréhendent la période que nous sommes en train de vivre.
Et à partir de 8h20, notre grand entretien avec Adeline Hazan, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Question ce matin sur le sort des détenus et des surveillants face à l'épidémie. Vos questions à Adeline Hazan, c'est maintenant le standard 01 45 24 7000.
France Inter.
À la une donc ce matin, Bernadette, la détresse des restaurants en ces temps de confinement.
Ils ont plié les chaises, coupé l'eau, rangé les cuisines, congelé ce qui pouvait l'être et en près de 4 semaines, pas servi un seul repas. Certains livrent, bien sûr, aux particuliers, aux associations, mais les quelques 200 000 restaurateurs français broient du noir. À combien d'entre eux le confinement va-t-il casser les reins? Beaucoup sont déjà dans le rouge, d'où ces initiatives de soutien qui se multiplie Claire Chaudière, des plateformes qui mettent notamment en relation restaurants et clients.
Le principe permettre à des clients d'acheter dès maintenant des bons sur Internet en vue de repas le jour d'après, redonner financièrement un peu d'air en somme à son restaurant de quartier pour éviter les faillites de demain, déjà dans toutes les têtes, assure Grégory Poitier, patron d'un bistrot parisien, récemment inscrit sur la plateforme Sauve ton resto.
Certains se disent, est-ce qu'il ne vaut pas mieux jeter l'éponge? Ce qui se joue maintenant, c'est de mobiliser sa communauté de clients. Je pense qu'il faut pas trop rêver, mais en même temps, ça donne une énergie.
Autre initiative, même philosophie, aidons nos restaurants.fr, soutenu vigoureusement par Hubert Jean, président de la branche restauration de l'Union des métiers de l'hôtellerie.
C'est un appel solennel. Si vous voulez nous retrouver à la sortie du confinement, il faut absolument envoyer un tout petit peu de trésorerie qui va générer des chèques gourmets à prendre instantanément dès l'ouverture des restaurants. On n'était pas en difficulté avant, on l'est maintenant. Tous ces clients disent qu'ils ont la première des choses qu'ils veulent faire, c'est d'aller manger au resto et d'aller boire un coup au bar. Est-ce que on va pouvoir assurer ça? Telle est la question.
Dans un secteur composé à 90% de petites entreprises de moins de 11 salariés, par définition fragile, et qui devra sans doute, au sortir de la crise, suggère la plupart des acteurs de la filière, faire face à une modification importante des comportements des consommateurs.
On peut malheureusement multiplier les exemples de professionnels qui redoutent un scénario noir, comme par exemple les fleuristes. Tiens, à l'approche du 1er mai, qu'en sera-t-il de la vente du muguet? Ce muguet, symbole de bonheur dont on a tant besoin en ce moment. Actuellement, la profession de fleuriste donc estime les pertes sèches à plus de 40 millions d'euros. Mais c'est d'abord bien sûr le bilan humain qui compte et il dépasse en France désormais les 13 000 morts du virus. En comptant les décès dans les EHPAD, plus de 4 500 dans ces maisons pour personnes âgées dépendantes. En Ile-de-France, 60% de ces établissements ont déclaré au moins un cas. Même dans les régions moins touchées comme le Val-de-Loire, les EHPAD sont sur le qui-vive. De plus en plus de cas, de plus en plus de décès, comme dans cette résidence du groupe privé Orpea à Chambrais-les-Tours où la situation devient vraiment très difficile. Xavier Louvel.
Les informations que nous avons collectées font état de 5 résidents décédés à la date de jeudi soir. 26 résidents sont symptomatiques, dont une vingtaine testés positifs. En clair, un résident sur 3 est touché. Seul le secteur Alzheimer n'est pas impacté pour l'instant. Les personnels ne sont pas épargnés, avec plus d'une dizaine de salariés testés positifs. Ils ne sont donc plus que 39 à travailler au service des résidents. Une situation extrême, les salariés sont à bout, tout comme la direction qui n'arrive pas à gérer cette situation. Des spécialistes de l'hôpital de Tours sont venus sur place cette semaine. Ils ont découvert la situation et d'ailleurs un dispositif d'aide et de soutien va être mis en place avec la réserve sanitaire. Des médecins vont y aller, tout comme des infirmières libérales.
Alors dans ces conditions, l'heure n'est pas au déconfinement, même si quelques signes d'espoir apparaissent. apparaissent comme pour le deuxième jour consécutif des lits en réanimation qui se libèrent, 62 hier. Alors donc pour ce week-end de Pâques, le confinement se durcit avec notamment le sport en extérieur qui est interdit. Il sera sans doute prolongé. Le président de la République donnera une nouvelle date lundi soir.
Et pour rendre possible le déconfinement, beaucoup insistent sur la nécessité de dépistage massif.
C'est le cas de la région Grand Est, la plus touchée par l'épidémie. Elle va acheter des millions de tests sérologiques. Pour cela, Patrick Genton, une société d'économie mixte rassemblant collectivités et banques et dotée de 10 millions d'euros a été mise sur pied.
Cette société d'économie mixte, baptisée Dynamise, permettra d'acheter plusieurs millions de tests aux firmes qui les commercialiseront dès le début de la semaine prochaine, dès lors que leur efficacité sera prouvée. L'ancienne ministre de la Culture et tête de liste socialiste à Strasbourg, Catherine Trottmann, est à l'origine de ce regroupement d'élus et d'entrepreneurs qui appellent à un achat massif de tests.
C'est important de pouvoir le faire rapidement à une grande échelle et donc d'avoir une fourniture de tests diversifiée, suffisante, en abondance, pour que l'ensemble des laboratoires, les grandes entreprises, les administrations publiques puissent procéder à cette démarche.
Il était urgent d'aller vite, quitte à prendre quelques risques, pour Olivier Becht, député mulhousien et président du groupe Droite Constructive Agir.
Le problème, c'est que d'ici une dizaine de jours, nous ne serons pas les seuls à vouloir tester notre population. Bien sûr, les Américains, les Allemands, une grande partie du monde voudront également acquérir ces tests. Et donc, il faut éviter de recréer le même pataquès que nous avons eu avec les masques, c'est-à-dire trop attendre et au final se retrouver avec une pénurie sur le marché.
L'État se montre encore hésitant sur la stratégie à adopter en la matière, mais la région Grand Est assure que l'initiative a été lancée avec l'assentiment des pouvoirs publics.
Patrick Genton, dans le monde, les États-Unis sont devenus le principal foyer épidémique, 500 000 malades, alors que son ennemi juré, l'Iran, redoute l'effondrement. Pour l'éviter, les autorités veulent une rapide reprise de l'économie, quitte à minimiser le bilan des victimes. Claude Guibal.
À la télévision iranienne, le président Hassan Rouhani.
À partir du 11 avril, les entreprises du pays à risque moyen et faible peuvent reprendre leurs activités, mais les entreprises à haut risque resteront fermées.
Pour les Iraniens, difficile d'y comprendre quelque chose. Personne ne comprend vraiment quels sont ces secteurs concernés. Depuis le début de l'épidémie, les Iraniens le disent. Rien pour eux n'est certain. Ce semi-confinement, qui n'en est pas tout à fait un, même si les commerces non essentiels ont certes fermé à Téhéran depuis des semaines, ces déplacements qu'on leur a demandé de limiter, les prières publiques enfin interdites. Mais alors que les médias officiels affirment que la courbe des contaminations diminue, la population entend des déclarations contradictoires des épidémiologistes, des autorités. Nous ne voulons plus de nouvelles victimes du virus, nous ne voulons pas non plus que les gens meurent de faim, a martelé Hassan Rouhani. Asphyxié par les sanctions américaines, l'Iran est plus que jamais en effet au bord du gouffre économique. Il s'est résolu à demander l'aide du FMI, un prêt de 5 milliards de dollars auquel les États-Unis devraient sans surprise opposer leur veto.
Claude Guibal, alors 3 800 km à la nage, 180 km à vélo et un marathon pour finir, c'est tout à fait possible, même quand on est confiné, surtout quand on est un champion de triathlon, comme le triathlète allemand Jan Frodeno. Confinement oblige, le champion olympique va effectuer cet Ironman, c'est comme ça qu'on dit, dans sa maison à Gérone en Espagne, et c'est du jamais vu à Maya Cavnaz. En plus, c'est pour la bonne cause.
À 38 ans, Jan Frodeno est une des légendes du triathlon. Sa maison, il en a fait un véritable centre d'entraînement. Il va d'abord nager dans une piscine équipée d'un contre-courant, puis monter sur un vélo d'appartement ultra moderne avant de terminer sur un tapis roulant. Même si c'est un athlète aguerri, il risque de souffrir à en croire Pierre Lecor, membre de l'équipe de France de triathlon, champion d'Europe en 2018.
C'est une épreuve qui va lui prendre quasiment 10 heures. Ce qui est assez difficile, c'est sur l'home trainer d'avoir toujours cette cadence de pédalage qui ne s'arrête jamais. Quand on est en extérieur, on a des petites descentes, on a des moments où on peut arrêter de pédaler ou changer ses allures. l'allure. Et là, ça va vraiment être très très dur musculairement.
Yann Frodeno a proposé aux triathlètes du monde entier de le rejoindre via une plateforme virtuelle qui permet aux cyclistes de rouler ensemble, mais chacun chez soi. Pierre Lecor va donc faire un bout de chemin avec lui.
Ça m'étonnerait pas qu'au bout de quelques kilomètres à vélo, il y ait 100, 200, voire 1000 personnes qui roulent autour de Yann Frodeno pour justement l'aider dans cette performance.
Cet Ironman maison sera filmé et retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Les fonds collectés seront redistribués à des associations caritatives qui luttent contre le coronavirus en Allemagne et en Espagne.
Alors ça commence à 8h, donc dans 20 minutes, si vous vous sentez, vous pouvez le suivre pendant tout son Ironman en direct sur sa page Facebook.
C'était le journal de l'Iron Woman, Bernadette Chamonaz. Le temps de ce samedi avec vous Jean-Michel Golinski, toujours beaucoup de soleil. Hein.
Ah c'est vrai, mais actuellement il y a quand même pas mal de zones dans le brouillard, un brouillard particulièrement épais à Rennes, Montpellier, Nîmes et Avignon. Ces grisailles vont tout de même rapidement disparaître et puis le soleil sera rayonnant. Toutefois dans le quart sud-ouest, en particulier entre la Garonne et les Pyrénées, là l'ambiance va devenir instable en seconde partie de journée avec le déclenchement d'averses et de coups de tonnerre, le tout dans des températures toujours élevées pour un mois d'avril. En général entre 19 et 22 cet après-midi près de la Manche et de la Méditerranée, 22 à 25 ailleurs, jusqu'à 27 degrés prévus sur le Limousin et le Poitou-Charentes.